Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat, c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Bon début d'après-midi, c'est Marianne Paquette au micro. Il y a toujours de la voix, donc c'est bon signe et on continue la semaine ainsi. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M du 9 au 13 novembre 2015. C'est la quatrième édition de la semaine Le poids sans commentaire. C'est une initiative de l'organisme Équilibre. Une semaine donc qui vise à inciter la population à prendre conscience de l'omniprésence des commentaires sur le poids et que ce soit positif comme négatif, là, parce que parfois, se faire dire « Ah, t'as donc bien maigri », c'est pas nécessairement positif, hein, ça peut cacher autre chose également. Et ces commentaires sur le poids-là, ben, ils sont partout, hein, oui, dans notre quotidien d'une part, mais aussi dans les médias sociaux, dans la publicité. Et c'est une semaine qui est assez pertinente lorsque l'on sait que près de 1000 femmes interrogées dans un sondage fait l'an dernier, donc assez récent, affirment qu'on leur parlait fréquemment de leur poids. Tout à l'heure, l'animatrice Saskia Thio, qui est la porte-parole de cette semaine, pourra nous en parler davantage. Et puis au Québec, il y a environ un enfant sur 100 qui reçoit un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Et évidemment, la première chose qui nous vient en tête, en tout cas du moins, je parle pour moi, c'est pourquoi? À quoi c'est dû? Bon, au-delà des causes là, qui nous interpellent, oui, parce que c'est préoccupant, je pense qu'il peut être pertinent de se demander comment. Comment on vient en aide à ces enfants-là? Comment on s'assure de leur développement maximal là, pour qu'ils deviennent des adultes autonomes dans notre société? Comment on peut les comprendre? Comment on peut entrer en communication avec eux? Quel genre de traitement est à privilégier? C'est assez complexe parce que chaque personne autiste est unique. Il faut y aller cas par cas. L'approche SACAD, ça offre un nouveau modèle d'intervention pour les personnes autistes et on va aller voir qu'est-ce que ça signifie avec Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, elle est fondatrice de la clinique SACAD. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là parce que la clinique SACAD, on le sait, est située à Québec. Mais bon, vous étiez dans le coin, donc on vous a pris au vol et on est très content de vous recevoir. Il paraît que dans la clinique SACAD à Québec, il n'y a absolument rien qui a été laissé au hasard. La couleur sur les murs, les poignées de porte, les éclairages, les tapis. Pourquoi tant de soucis accordés à des détails? En tout cas, du moins pour nous, ça semble être des détails.
Oui, effectivement, ça peut sembler un petit peu farfelu par rapport à tous ces éléments-là, mais pour nous, la clinique, elle est là d'abord pour la personne autiste de 0 à 100 ans. Mm-hmm. Alors, peu importe son âge, ce qu'on veut, c'est quand elle vient chercher des services, qu'elle puisse être dans une disponibilité, finalement, pour être aidée à son maximum.
Oui. Et en lui évitant d'être anxieuse ou encore d'être déstabilisée par des choses qui, nous, ça ne nous apparaît pas déstabilisant, mais ça l'est pour les personnes autistes.
Oui, parce que c'est justement ce contrôle-là par rapport à toute l'information qui est à l'extérieur, qui est compliquée pour eux à pouvoir gérer. Alors, si nous, on pouvait leur donner un coup de main en gérant tout ce qui est de l'extérieur, comme ça, de l'environnement, il nous reste à les aider pour faire le travail à l'intérieur sur ce dont ils ont besoin.
Qu'est-ce qui distingue la méthode SACAD? Oui, c'est que vous utilisez une méthode qui est développementale, j'espère le dire comme il faut, quand souvent on utilise une méthode qui serait comportementale. Est-ce qu'on peut vulgariser ça afin de mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie? Brigitte?
L'autisme, c'est d'abord neurodéveloppemental. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que c'est un trouble qui affecte d'abord le développement du cerveau, le développement des systèmes nerveux. Et c'est jusqu'à date, c'est comme ça que c'est défini dans la littérature. Alors la réponse, après 70 ans d'essais de toutes sortes, on a compris que la réponse devrait se situer dans le secteur neurodéveloppemental aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vous vous connaissez toutes les deux depuis 2003. Grosso modo, vous avez amorcé une première clinique en 2006. SACAD, c'est tout jeune, c'est tout nouveau, là. Ça existe depuis février 2015. Ensemble, comment vous avez construit cette méthode-là?
Disons que depuis 2003 jusqu'à 2015, on avait commencé à travailler ensemble. On avait construit, dans le fond, la clinique, les services de concept consultaine, dont en février, on a changé de nom pour SACAD. À partir de ce moment-là, on était déjà installé dans un petit endroit tout petit pour commencer à donner des services, mais c'était à très petite échelle. Et depuis mars 2015, on a fait le choix et de s'installer dans un endroit qui était beaucoup plus vaste, avec lequel on pouvait offrir beaucoup plus de services qui allaient couvrir tout le parcours de vie de la personne 0-100 ans qui était autiste, peu importe son degré d'atteinte.
Et je pense que vous travaillez avec plein d'autres spécialistes de la santé.
Beaucoup de professionnels avec nous, que ce soit au niveau des médecins, des neuropsychologues, psychologues, éducateurs, orthopédagogie, profs de français, profs de maths, bref, toutes les personnes dont la personne autiste peut avoir besoin dans son parcours de vie, tout professionnel dont elle pourrait avoir besoin, à ce moment-là, va pouvoir retrouver les services chez nous dans la langue autistique. C'est ce qui est un peu unique chez nous par rapport
C'est quoi la langue autistique?
L'autisme, il faut voir ça. Ça avait été dit quand l'Université de Montréal avait sorti son modèle. Dr. Motron en avait parlé, mais ça faisait un bon bout de temps que ça circulait. On en parlait en formation de façon régulière parce qu'on fait beaucoup de formations depuis 2004. L'autisme doit être. La façon dont ça se comporte, ça ressemble à de la surdité ou de la cécité.
Ah oui?
Lui, il disait comme si la personne souffrait d'une privation sensorielle. C'est un peu ça. T'es aveugle social. C'est un peu ce que ça fait.
Sourd social.
Oui, ça pourrait. À partir de ce moment-là, quand on regarde le fonctionnement des personnes aveugles ou sourdes, bien, si je prends les personnes sourdes qui ont une langue des signes, nous, en autisme, pour compléter le passage du visuel au verbal, à la pensée verbale, ça prend ce qu'on appelle un langage conceptuel. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, c'est notre outil de rémédiation cognitive au bureau, à la clinique. C'est le point central de SACAD. C'est une langue qu'on espère qu'il deviendra une langue. Pour l'instant, c'est un langage. Et qui est à base, au lieu d'avoir les deux mains pour faire des signes, c'est un code écrit graphique avec crayon papier d'abord qui passe de dessins très concrets, qui passe de dessins concrets jusqu'à des signes. Okay. Et c'est évolutif.
Et c'est une façon d'entrer en contact avec la personne autiste?
C'est une façon pour la personne autiste d'avoir accès à son information. Oui, ça prend des gens de l'extérieur pour amener la personne autiste à le faire, c'est certain. La réponse arrive de d'une autre personne, ça c'est clair. Mais oui, les gens peuvent entrer en contact avec les autistes, un peu comme certains vous ont déjà décrit. Mais le bout de la chaîne n'est pas que les gens entrent en contact avec les autistes, mais bien que les autistes s'approprient leur information pour entrer en contact avec le monde. Mm-hmm. Après ça, ils rentreront en contact avec qui ils veulent.
Bien sûr. Le langage conceptuel, est-ce que ça peut aider même un autiste qui serait non-verbal?
Il n'y a pas d'âge pour le langage conceptuel. Hein? C'est vraiment, quand on dit le langage, quand on compare avec la surdité, il n'y a pas d'âge pour cette communication-là. Alors que ce soit une personne qui soit non-verbale jusqu'à un adulte de 50 ans professionnel TSA, le langage conceptuel va lui être bénéfique à tout prix. Mm-hmm. À tout prix.
Quand tu t'occupes de l'autisme, tu ne sélectionnes pas tes autistes, tu t'occupes de l'autisme. Mm-hmm. N'importe quel âge, n'importe quel degré d'atteinte, avec ou sans trouble associé, tu vas aller chercher le noyau autistique.
Kim Thuy, qui est votre ambassadrice, qui vous a consulté pour son fils qui a 13 ans, dit que grâce à votre contact, maintenant, elle arrive à comprendre son fils. Elle dit à 95% là, parce que ça demeure quand même un ado. Donc, un ado, c'est difficile à comprendre là, par définition. Je donne cet exemple-là, mais il pourrait en avoir bien d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'on peut finalement arriver à comprendre? Est-ce que vous avez des exemples très concrets?
À comprendre.
Je ne sais pas, un autiste qu'on n'arriverait pas à comprendre, qui voudrait signifier quelque chose, qui voudrait s'exprimer d'une certaine façon, on n'arriverait pas à saisir et le langage conceptuel nous donne ces clés-là.
Un autiste, c'est quelqu'un qui parle le même langage sonore que vous, mais pas le même langage conceptuel. Mm-hmm. Alors, quand le travail est fait, on a replacé l'organisation cognitive pour les concepts. Alors, il s'exprime mieux. Donc, la personne en avant comprend mieux.
Peut-être juste donner un exemple. Souvent, les gens vont comme voir l'autisme, quand on parlait tantôt comportemental versus développemental. Quand on est en comportemental, les gens vont d'abord observer ce qu'ils voient de l'extérieur et l'interpréter selon leur compréhension à eux. Ce qui est distinct chez nous, c'est que quand Brigitte est arrivée avec la description du fonctionnement interne, elle est venue donner un sens à tous ces éléments-là qu'on pouvait percevoir de l'extérieur et on leur a donné un sens de l'intérieur, ce que ça signifie. Alors, des fois, on prend l'exemple du battement des ailes ou les petits bras qui bougent de chaque côté et les gens vont dire à ce moment-là, « Ah, il fait comme ça, on va l'arrêter de battre des mains comme ça parce que ça fait autiste.
Ouais, » ouais,
là,
ouais,
on
ouais.
travaille en comportemental quand on est comme ça. La différence chez nous, quand on va voir l'enfant qui va bouger les bras ou l'adulte qui va bouger les bras, on va se dire, « Ah! » Et voilà, il est rendu à tel niveau dans son stade de développement de sa structure autistique. Et maintenant, comment je peux faire pour l'accompagner, pour passer à une autre étape sans l'interdire de faire ces gestes-là? Mm-hmm. Alors, c'est un peu cette compréhension-là. Je pense que quand Kim y fait référence, on est venu donner un sens à ce que le parent peut percevoir de l'extérieur avec plus ou moins de réponses qui sont cohérentes. Donc, on est allé donner le sens de l'intérieur. Et ensuite, on accompagne pour dire, bien, et voilà, maintenant, à partir de ça, c'est OK. Maintenant, voici la prochaine étape de travail à faire avec votre enfant.
Mm-hmm. Non seulement le tableau pour le parent devient plus clair, mais en plus, l'autiste devient de plus en plus compréhensible.
Mm-hmm. Mm-hmm. Brigitte, vous vivez vous-même avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça a été diagnostiqué assez tard, là, mi-trentaine à peu près. Évidemment, j'imagine que votre parcours, votre vécu, ça amène un gros plus à la méthode Saccade.
Oui. Oui, parce que moi, j'ai été rapidement, on m'a demandé d'écrire, j'étais déjà en intervention. J'ai un métier d'intervention, ce qui fait que on m'a demandé d'écrire comment je fonctionnais. À l'époque, c'était dans les années 90, Grandin venait d'arriver et les gens venaient de comprendre qu'il y avait des autistes adultes qui étaient capables de s'exprimer.
Oui.
Ça fait qu'à partir de là, on m'a demandé d'écrire sur le fonctionnement autistique. Ça a été fait. Je l'ai fait. J'ai d'abord écrit un premier manuscrit, puis après ça, ça a été beaucoup plus loin. C'est ce qui est la base de l'ensemble des formations, des conférences que j'ai données depuis 2003-2004. Ça a explosé et ça a permis aux gens de comprendre de mieux en mieux. Moi, je n'ai pas besoin de fouiller. Quand on me pose une question, j'ai besoin que d'aller chercher maintenant dans mes références pour... depuis que j'ai fait le boulot là, dans les années 90, pour moi, j'ai besoin seulement d'aller chercher les références pour donner la réponse. Et souvent, les gens me disaient, ben on te pose une question à l'est, puis tu réponds à l'ouest, parce que c'est pas ce que les gens s'attendent comme interprétation, exactement ce que Lise vient de décrire. Ça fait que l'expérience sert, tant mieux. C'est pour ça que je suis sortie d'ailleurs. On m'a demandé que ça serve. Fait que... C'est ce que je fais.
C'est à partir de cette description-là qu'on y allait mettre en place finalement ce qu'il y avait à faire comme travail après.
Mm-hmm. Oui. On est parti du fonctionnement interne qui a ciblé les besoins parce qu'il n'existe aucune description des besoins autistiques au moment où on se parle. Alors, c'est dur de répondre aux besoins quand tu les as même pas dans la science. Ce qui fait qu'on est parti du fonctionnement interne, on a regardé aussi chez les autres autistes. Et on a sorti les besoins qui se sont précisés avec le temps. Et à ce moment-là, les gens demandaient dans les salles de formation d'avoir des moyens, d'avoir des façons de faire. Et on les donnait à gauche et à droite. Et à un moment donné, on s'est dit, on va le structurer. Mm-hmm. C'est ce qui a fait sa carte.
Et c'est quoi les besoins que vous avez ressortis?
Pour être simple, c'est organisation cognitive. Il faut replacer toute la section conceptuelle pour arriver à ce que la personne puisse faire des liens, s'en servir en temps réel et que ça puisse affecter le développement, l'équilibrer en tout cas. Là. Ça, c'est clair.
Mm-hmm. On le disait avant que l'émission débute, là, à micro fermé. Oui, l'autisme, c'est préoccupant parce qu'on a l'impression que les cas ne cessent d'augmenter. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de préoccupant aussi, c'est qu'on a l'impression de pas toujours avoir la bonne information. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui circulent,
ouais.
Mais on fait comment pour faire le ménage là-dedans? Parce que j'imagine que parfois, les familles que vous rencontrez au sein de Saccade arrivent un petit peu démunies parce qu'ils ne savent plus trop là, à quel sein se vouer. Comment on recadre tout ça et qu'on arrive à fournir de l'information qui est claire, qui est véridique?
Il faut connaître la littérature. Il faut lire le plus possible dans les différents secteurs. des 2-3 000 textes à lire dans quelques années, ça existe. Là, on n'a pas le choix. Il faut lire à tous les jours. Et il faut tenir compte de l'ensemble de la littérature, y compris ce que les autistes disent.
Oui. Mm-hmm.
Parce que pendant 70 ans, il y a été question d'observation extérieure. On comprend, c'était comme ça, les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Maintenant, on a des nouvelles sur comment le cerveau fonctionne. On n'a pas encore toute la description autistique. On a des zones qui commencent à être de plus en plus claires. Et, tu sais, c'est un début, là. C'est pas rendu loin. Mais il faut se servir de ce qu'on comprend de ça, de comment les personnes autistes l'analysent et comment on peut... tu sais, quand tu fais une intervention, il y a un résultat qui est supposé arriver.
Mm-hmm.
Et c'est au niveau du résultat qu'il faut que les gens... Puis bien souvent, les gens oublient les bases mêmes de l'intervention. Tu sais, un enfant qui est médicamenté depuis un an, mais il n'y a pas d'effet, le médecin devrait le savoir. Il ne sait pas parce que personne n'en parle.
Oui.
Fait qu'il y a des bases comme ça qu'on a dans... On a tous appris ça. Il y a d'autres secteurs d'intervention où il faut surveiller des choses, mais on dirait que les gens en autisme, ils ont les bras pleins. Fait qu'ils n'arrivent pas à surveiller. Fait qu'il faut que tu considères toute la littérature, l'expérience des gens sur le terrain, faut que tu considères aussi ce que les autistes disent.
Oui. Mais encore faut-il pouvoir les entendre, qu'ils aient un certain... micro, une certaine portée à quelque part. On n'en voit pas tant que ça, Bridget Harrison, des personnes autistes s'exprimer dans les médias.
Non, on n'en voit pas tant que ça, des personnes autistes s'exprimer dans les médias, parce que quand tu parles, souvent, tu n'es pas pris au sérieux ou tu vas... Puis moi, j'ai toujours dit, je ne vais pas... Je ne vais pas discuter là-dessus, ça coûte trop cher d'énergie.
Mm-hmm.
Alors, ce qu'on va faire, on va apporter des résultats.
Ouais.
C'est comme ça qu'on va y aller, puis qu'après ça, on regardera qui avance, c'est tout.
Ouais.
Et pour être un autiste dans les médias, nous, on n'est pas de... Quand t'es autiste, t'as pas la notion de mensonge, de manipulation. Ça fait que souvent, les personnes autistes qui essayent de sortir, ils rentrent très rapidement parce que c'est trop compliqué.
Ouais.
Ça fait que moi, je suis entourée, ça fait longtemps, c'est pas pareil.
Ouais. Vous êtes entourée ici par Lise, qui semble être un bon pilier aussi. Justement, on en parle énormément des résultats. Le temps file, j'aimerais ça les entendre. C'est quoi les résultats du côté de la clinique Sacane?
Les résultats qu'on obtient sont concrets, peu importe encore l'âge, peu importe le degré d'atteinte, on le répète, la baisse d'anxiété. Hein? On va voir ça beaucoup, beaucoup quand on voit nos... surtout sur nos... C'est ceux qui sont, on dira, d'autisme de plus haut niveau qui fonctionnent à travers le système. C'est l'anxiété qui s'installe habituellement, difficile à gérer. Baisse d'anxiété, baisse des troubles de comportement. On entend malheureusement beaucoup ça en 2015. Beaucoup plus de troubles de comportement qui s'installent, puis c'est pas normal. Ça devrait pas être là non plus. On va avoir l'interaction qui va s'installer, la communication qui va s'installer.
Baisse des crises.
Baisse des crises.
Baisse de l'écolalie. Augmentation de l'interaction, la réciprocité qui apparaît dans la majorité des cas. Et on ne peut pas encore être validé parce qu'on ne travaille même pas sur les mêmes besoins.
Oui.
Fait que tu peux pas aller là après 8 ans d'existence. Là.
La disponibilité à l'apprentissage, donc peu
importe. Oui, ils arrivent à apprendre.
Les jeunes arrivent à apprendre à ce moment-là.
Ils ont accès aux connaissances, à l'éducation.
Oui.
On le voit, là. Et les gens... Puis on n'est pas juste au Québec, hein. Les gens avec qui on travaille en France ont les mêmes résultats que nous ici.
Mm-hmm.
Alors, ça se transmet en plus comme information. On est capable de transmettre en plus.
J'aurais aimé pouvoir aborder plein d'autres trucs avec vous. Évidemment, ben, le temps nous fait la guerre. Sacade.ca, pour en savoir davantage, vous êtes à Québec. Est-ce que vous pensez faire des petits un petit peu partout?
Ça nous est demandé, mais bon, on va commencer par commencer. On est Québec pour l'instant, la ville de Québec, mais comme on dit aux gens, on n'est pas en Californie, on est très près par l'autoroute 20, 2h30 de route et on est rendu.
Bridget Harrison, Lise Saint-Charles, fondatrice de la clinique Sacade, ça a été un plaisir, peut-être un peu trop rapide, mais on saura se reparler bientôt.
Merci.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Saskatoo.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de la semaine Le Poids sans commentaire pour la deuxième année.
Oui.
Une semaine qui incite autant les hommes, les femmes, les enfants à ne pas parler de poids pendant une semaine. Ça semble être un grand défi pour bien les gens. Mais là, lorsque l'on parle de ne pas parler de poids, là, c'est autant les commentaires positifs
oui.
que négatifs.
Oui.
En quoi se faire dire « t'es donc bien belle, t'as maigri », ça peut être négatif à quelque part?
Bien, d'abord, il faudrait que la beauté, ça soit reliée à autre chose que le poids. Première des choses, je pense que ce serait de là déjà un bon point de départ. Ce qui va arriver dans certains cas, c'est qu'on va vouloir dire à quelqu'un, lui faire un compliment. Puis ça part souvent d'une très belle intention et d'une bonne intention, c'est de dire, ben voilà, t'es donc bien jolie, t'as maigri. Puis on le fait maintenant autant aux hommes qu'aux femmes. Et ce que ça peut faire, c'est quelqu'un qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa peau, va peut-être se dire, ben voyons donc, comment ça se fait? Est-ce que j'étais pas jolie avant? J'étais pas bien? Comment on explique ça? Et puis là, à partir de ce moment-là, on peut semer des doutes. Et si la personne était déjà au départ très bien dans son corps, elle va peut-être commencer à se positionner puis à faire des choix qui pourraient là, mettre sa santé en péril. Parce que c'est ça, hein? Lorsqu'on fait des commentaires sur le poids aux gens qui nous entourent, on ne sait pas comment ils vont réagir.
Oui.
Voilà.
Vous-même, vous avez reçu des commentaires sur votre poids. Ouais. Ça, ouais.
Un coup de
ça
poids, on pourrait dire ça,
ça
oui.
Ça a peut-être eu un certain poids. Ça a changé quoi dans votre carrière? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre regard sur vous, dans votre entourage?
Non, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est arrivé ça fait 2 ans déjà, c'était en mars.
2014,
donc ça fait un an et demi où quelqu'un m'avait écrit « t'as pas maigri, beauté », puis là j'ai fait « hey, là, ça va faire, là, j'en peux plus ». Puis ceci étant dit, c'est que moi, je me suis soulevée contre ça parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on se fait dire des choses plates comme ça, bien, premièrement, ça blesse. Les gens oublient qu'on est des êtres humains. Je veux dire, moi, je les prends, là, c'est moi qui est sur... C'est mon Facebook à moi, je lis les messages. Dans la majorité des cas, j'y réponds. Il ne faut pas imaginer qu'on est des machines. Je veux dire, moi, je fais à manger à mes enfants et je lave mes toilettes. Alors, je suis un être humain avec des émotions. Et cette fois-là, ça n'a pas passé. C'est pas la première fois. Quand on est une personnalité connue, on fait face à ce genre de commentaires-là. Et là, j'ai envie de... Je fais juste une autre parenthèse.
Bien sûr.
Dans notre milieu... et ça, je trouve ça intéressant de le dire aussi, c'est que le modèle de gens qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans les médias, c'est souvent un modèle physique qui se ressemble beaucoup et qui ne reflète pas très bien la diversité corporelle de notre monde. Moi, je dis toujours, et là, je vous invite à le faire après l'entrevue, là, allez regarder autour de vous les gens et vous allez voir à quel point on est tous différents physiquement, les cheveux, la couleur de peau, la grandeur, c'est ce qui fait qu'on est beau, c'est ce qui fait que notre monde est beau. Mais c'est sûr que si on s'arrête 2 minutes et on regarde toutes les animatrices à la télé, bien, on est pas mal fait sur un même frame de... Puis, ben moi, je détonne un petit peu de ça. Je suis plus courbée, puis tout ça, c'est sûr que de toute façon, savez-vous quoi, dans notre milieu, peu importe ce qu'on va faire, on va se faire dire un jour ou l'autre, ça marche pas, un truc plate.
Ouais.
Dans ce cas-ci, moi, j'ai dit, ben là, je suis pas d'accord. Puis, ça a soulevé, en tout cas, c'était complètement fou. Je pense qu'il y a eu 600 000 personnes qui ont vu le message Facebook. Puis après ça, je me suis retrouvée dans les médias. C'est juste pour dire d'arrêter de faire des commentaires sur le poids parce que ça blesse. Et j'ai eu des témoignages de gens, des gens qui sortent plus de chez eux parce qu'ils se sentent pas bien. Puis, il faut arrêter de croire que notre enveloppe signifie si on est en santé ou pas. On ne connaît pas la vie des gens. On peut-tu regarder le monde dans les yeux et arrêter de se fier à l'enveloppe?
Voilà. Oui, oui. Et puis, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à aborder, autres que le poids.
C'est sûr.
La semaine Le Poids sans commentaire, c'est une initiative d'équilibre qui a mis en place plusieurs outils au cours de cette semaine-là. Entre autres choses, une activité de photomobilisation, ça consiste à quoi?
Bien, ce sont des bulles. On peut les avoir, donc vous les trouvez facilement sur le site de Groupe Équilibre. Sur mon site aussi, saskiatoo.com, vous avez toutes les informations. J'en ai une ici, vous pouvez pas la voir, mais c'est comme une grosse bulle de bande dessinée dans laquelle c'est indiqué « Si j'étais plus mince », et là, on raye ça, j'irais à la piscine. Alors, ce serait quoi? C'est j'avais plus de temps ou si j'étais juste plus joyeuse. Donc, d'arrêter de mettre de l'avant le poids. Comme par exemple, on va dire ici, regardez cette actrice, elle est vraiment mince, elle est vraiment trop maigre. On règle ça, elle est vraiment talentueuse au lieu. Donc, c'est de se forcer. Et Et là, je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi à quel point, quand on parle des gens, on fait référence à leur allure physique.
Oui.
C'est incroyable. Donc, oups, on s'arrête avant pour dire, OK, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Cette personne est drôle. Ou de dire, moi, je me sens bien avec toi. D'aussi de faire le compliment autrement. J'ai du plaisir avec toi. Merci. T'es drôle. Merci d'être à l'écoute. Donc, juste de prendre le temps. Là, je parle vite. C'est vraiment un sujet qui me... qui m'emporte, mais de prendre le temps, de prendre le temps de trouver autre chose, de trouver... Il y a tellement de belles qualités par rapport aux gens qui nous entourent, puis voilà, d'arrêter de parler de poids.
Bien, on définit les gens par leur poids, mais on définit aussi la beauté par le poids.
Oui.
Et dans encore cette bulle-là qui est liée à l'activité photo de mobilisation, vous avez dit, pour moi, la beauté, c'est la joie de vivre.
Oui.
Il faut penser aussi à redéfinir la beauté. Je pense que cette semaine-là, le poids sans commentaire, c'est une façon de réinterroger notre rapport à la beauté, de se dire que c'est autre chose que, qu'un poids sur une balance. Là.
Oui. Je vais vous dire, donner un exemple que c'est pas la première fois que je le dis, mais je trouve qu'il est assez percutant. Quand j'étais un peu plus jeune, on m'avait dit, je comprends pas pourquoi tu pognes plus que moi, Saskia, t'es plus grosse que moi. Puis j'avais dit, ben mets-toi un sourire d'en face, tu vas voir, ça pogne aussi des sourires. Alors voilà, c'était aussi cru que ça. Et puis c'est vrai, puis c'est une question de société. Moi, là, en Amérique du Sud, je suis la première qui vient chercher danser. Donc, il y a ça aussi, c'est que ici, le modèle de beauté qu'on nous propose, c'est tout pareil, des grandes minces, la peau blanche. Donc, c'est juste ça qu'il faut changer. Puis en même temps, il y a un changement qui s'en vient.
Ouais.
On sent, on le voit dans les défilés de mode, on le voit dans le monde
dans
de la
revues,
mode.
Hein,
mais il faut arrêter de dire des tailles plus. Il faut arrêter. Regardez, maintenant, ce qu'on veut disponible sur le marché, c'est des tailles de zéro, c'est un peu intense, mais des tailles, mettons, de 8 à 20, si nécessaire. Voilà.
Alors, lepoissancommentaire.ca pour
j'entends
en savoir.
J'entends la petite musique, ça veut dire Saskia, ferme ta grande bouche.
Ça veut dire qu'il reste quelques secondes, mais la discussion va se continuer hors micro,
oui.
Saskia Thio, parce que c'est un plaisir de vous entendre.
Merci.
Je vous souhaite une très belle semaine.
C'est vraiment
gentil. Merci sans commentaire. Jean-Sébastien Laliberté, merci. Nous, on se retrouve demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien et pas un mot sur votre poids. Bye-bye.